dans le régiment, ce fut une stupéfaction. Juponneux avait rompu avec Mélanie. Au bout d'une semaine, la chose était prouvée, indéniable. Le capitaine ne remettait pas les pieds au café de Paris. On racontait que le pharmacien avait repris la place toute chaude, à la grande tristesse de l'ancien magistrat. Et, fait plus incroyable encore, le capitaine Burlevive est enfermé rue des Récollets. Il se rangeait, décidément, jusqu'à passer les soirées au coin du feu à faire répéter des leçons au petit Charles. Sa mère, qui ne lui avait pas soufflé mot de ses tripotages avec Gagneux, gardait en face de lui, dans son fauteuil, sa raideur sévère. Mais ses regards disaient qu'elle le croyait guéri. 15 jours plus tard, le major Laguitte vint un soir s'inviter à dîner. Il éprouvait quelque gêne à se retrouver avec Burle, non pour lui, certes, mais pour le capitaine, auquel il craignait de rappeler de vilains souvenirs. Cependant, puisque le capitaine se corrigeait, il voulait lui donner une poignée de main et casser une croûte ensemble. Ça lui ferait plaisir. Burle était dans sa chambre lorsque Laguitte se présenta. Ce fut Madame Burle qui reçut ce dernier. Après avoir dit qu'il venait manger la soupe, il ajouta.
Eh bien ?
Tout va pour le mieux, répondit la vieille femme.
Rien de louche ?
Rien, absolument. Couché à 9 heures, pas une absence, et l'air très heureux.
Ah, nom de Dieu, c'est gentil !
Cria le major.
Je savais bien qu'il fallait le secouer. Il a encore du cœur, l'animal.
Quand Burle parut, il lui serra les mains à les écraser. Et devant la cheminée, avant de se mettre à table, on causa honnêtement. On célébra les douceurs du foyer domestique. Le capitaine déclara qu'il ne donnerait pas son chez-lui pour un royaume. Lorsqu'il avait retiré ses bretelles, mis ses pantoufles et qu'il s'allongeait dans son fauteuil, le roi, disait-il, n'était pas son oncle. Le major approuvait, en l'examinant. Certes, la bonne conduite ne le maigrissait pas, car il avait encore enflé, les yeux gros, la bouche épaisse. Il sommeillait à demi, tassé dans sa chair, en répétant
« La vie de famille, il n'y a que ça, ah, la vie de famille !»« C'est très bien, »
dit le major, inquiet de le voir si crevé.
« Mais il ne faut de l'exagération en rien. Prends de l'exercice. Entre de temps à autre au café. »«
Au café, pourquoi faire ? J'ai tout ce qu'il me faut ici. Non, non, je reste chez moi. »
Charles rangeait ses livres, et Laguitte resta surpris de voir paraître une bonne qui venait mettre la table.
« Tiens, vous avez pris quelqu'un ? »
dit-il à Madame Burle.
« Il l'a bien fallu, » répondit celle-ci en soupirant. « Mes jambes ne vont plus. Tout le ménage était à l'abandon. Heureusement que le père Cabrol m'a confié sa fille. Vous connaissez le père Cabrol, ce vieux qui a le balayage du marché. Il ne savait que faire de Rose. Je lui apprends un peu de cuisine. »
La bonne sortait.
« Quel âge a-t-elle donc ? »
demanda le major.
« À peine 17 ans. C'est bête, c'est sale. Mais je ne lui donne que 10 francs par mois. Et elle ne mange que de la soupe. »
Lorsque Rose rentra avec une pile d'assiettes, Laguitte, que les filles intéressaient peu, la suivit du regard, étonnée d'en rencontrer une si laide. Elle était petite, très noire, légèrement bossue, avec une face de guenon à nez épaté, à bouche fendue largement, et où luisaient de minces yeux verdâtres. Les reins larges et les bras très longs, elle avait l'air très fort.
« Sacré nom, quelle gueule !»
dit Laguitte égayée, quand la bonne fut sortie de nouveau, en quête du sel et du poivre.
« Bah !»
murmura Bulle négligemment.
« Elle est très complaisante, elle fait tout ce qu'on veut. C'est toujours assez bon pour laver la vaisselle. »
Le dîner fut charmant. Il y avait le pot-au-feu et un ragoût de mouton. On fit raconter à Charles des histoires de son collège. Madame Burle, afin de montrer qu'il était gentil, lui posa plusieurs fois sa question. « N'est-ce pas que tu veux être militaire ?» Et un sourire effleurait ses lèvres blanches, lorsque le petit répondait, avec une obéissance craintive de chien savant, «
Oui, grand-mère. Le capitaine Burle avait posé les coudes sur la table, mâchant lentement, absorbé. Une chaleur montait. L'unique lampe qui éclairait la table laissait les coins de la vaste pièce dans une ombre vague. C'était un bien-être alourdi, une intimité des gens sans fortune, qui ne changeant pas d'assiette à tous les plats, et qu'un compotier plein d'œufs à la neige servit au dernier moment, mettant gaieté. Rose, dont les talons lourds faisaient danser la table lorsqu'elle tournait derrière les convives, n'avait pas encore ouvert la bouche. Elle vint se planter près du capitaine. Elle demanda d'une voix rauque.
« Monsieur veut du fromage ?»«
Hein ? Quoi ?» dit Burle en tressaillant. « Ah oui, du fromage. Tiens bien l'assiette. »
Il coupa un morceau de gruyère, tandis que la petite, debout, le regardait de ses yeux minces. La guitte riait. Depuis le commencement du repas, Rose l'amusait énormément. Il baissait la voix. Il murmurait à l'oreille du capitaine.
« Non, tu sais, je la trouve épatante. On n'a pas le nez ni la bouche bâtie comme ça. Envoie-la donc un jour chez le colonel, histoire de la lui montrer. Ça le distraira. »
Cette laideur l'épanouissait paternellement. Il désira la voir de près.
« Dis donc, ma fille et moi, j'en veux bien du fromage. »
Elle vint avec l'assiette. Et lui, le couteau planté dans le gruyère, s'oubliait à la regarder, riant d'aise, parce qu'il découvrait qu'elle avait une narine plus large que l'autre. Rose, très sérieuse, se laissant dévisager, attendait que le monsieur eût fini de rire. Elle ôta la table. Elle disparut. Burle s'endormit tout de suite au coin du feu, pendant que le major et Madame Burle causaient. Charles s'était remis à ses devoirs. Une grande paix tombait du haut plafond, cette paix des familles bourgeoises que leur bonne entente rassemble dans la même pièce. À 9 heures, Burle se réveilla en bâillant et déclara qu'il allait se coucher. Il demandait pardon, mais ses yeux se fermaient malgré lui. Quand le major partit, une demi-heure plus tard, Madame Burle chercha vainement Rose pour qu'elle l'éclairât. Elle devait déjà être montée dans sa chambre, une vraie poule, cette fille, qui ronflait dès 12 heures à point fermé.
« Ne dérangez personne, »
dit la guitte sur le palier.
« Je n'ai pas de meilleures jambes que vous, mais en tenant la rampe, je ne me casserai rien. Enfin, chère madame, je suis bien heureux. Voilà vos chagrins finis. J'ai étudié Burle, et je vous jure qu'il ne cache pas la moindre farce. Oh, nom de Dieu ! Il était temps qu'il sortît de jupon. Ça tournait mal. »
Le major s'en allait ravi. Une maison de braves gens, et où les murs étaient de verre. Pas moyen d'y enfouir des saletés. Dans cette conversion, ce qui l'enchantait, au fond, c'était de ne plus avoir à vérifier les écritures du capitaine. Rien ne l'assommait comme toutes ces paperasses. Du moment que Burle se rangeait, lui pouvait fumer des pipes et donner des signatures les yeux fermés. Pourtant, il veillait toujours d'un œil. Les reçus étaient bons. Les totaux s'équilibraient admirablement. Aucune irrégularité. Au bout d'un mois, il ne faisait plus que feuilleter les reçus et s'assurer des totaux, comme il avait toujours fait d'ailleurs. Mais un matin, sans aucune méfiance, uniquement parce qu'il avait rallumé une pipe, ses yeux s'attardèrent à une addition. Il constata une erreur de 13 francs. Le total était forcé de 13 francs pour balancer les comptes. Et il n'y avait pas eu d'erreur dans les sommes portées, car il les collationna sur les reçus. Cela lui sembla louche. Il n'en parla pas à Burle, il se promit de revoir les additions. La semaine suivante, nouvelle erreur, 19 francs au moins. Alors, saisi d'inquiétude, il s'enferma avec les registres. Il passa une matinée abominable à tout reprendre, à tout additionner, suant, jurant, le crâne éclatant de chiffres. Et, à chaque addition, il constatait un vol de quelques francs. C'était misérable. 10 francs, 8 francs, 11 francs. Dans les dernières, cela tombait à 4 et 3 francs. Et il y en avait même une sur laquelle Burle n'avait pris qu'1,50 francs. Depuis près de 2 mois, le capitaine rognait ainsi les écus de sa caisse. En comparant les dates, le major put établir que la fameuse leçon l'avait fait se tenir tranquille juste pendant 8 jours. Cette découverte acheva de l'exaspérer.
« Oh, nom de Dieu, nom de Dieu !»
gueulait-il tout seul en donnant des coups de poing sur les registres.
« C'est encore plus sale. Au moins, les faux reçus de Gagneux s'étaient crânes. Tandis que cette fois, nom de Dieu, le voilà aussi bas qu'une cuisinière qui chippe 2 sous sur un pot-au-feu. Aller gratter sur les additions. Foutre 1,50 francs dans sa poche. Nom de Dieu, nom de Dieu. Sois donc plus fier, salaud. Emporte la caisse et va la bouffer avec des actrices. »
La pauvreté honteuse de ces vols l'indignait. En outre, il était furieux d'avoir été dupé de nouveau par ce moyen des additions fausses, si simples et si bêtes. Il se leva. Il marcha pendant 1 heure dans son cabinet, hors de lui, ne sachant que faire, lâchant des phrases à voix haute.
« Ah, décidément, c'est un homme toisé, il faut agir. Je lui flanquerai une suée chaque matin, que ça ne l'empêcherait pas tous les après-midi de se coller dans le gousset sa pièce de 3 francs. Mais tonnerre de Dieu, où mange-t-il ça? Il ne sort plus, il se couche à 9 heures, et tout paraît si honnête, si gentil chez eux. » Est-ce que le cochon a encore des vices qu'on ne lui connaît pas ?
Il se remit à son bureau, additionna les sommes soustraites qui montaient jusqu'à 545 francs. Prendre cet argent ! L'inspection, justement, approchait. Il suffisait que ce maniaque de colonel s'avisât de refaire une addition pour que le poteau rose fût découvert. Cette fois, Burle était fichu. Cette idée calma le major. Il ne jurait plus. Il restait glacé, avec l'image de Madame Burle toute droite et désespérée devant lui. En même temps, il avait le cœur si gros pour son compte que sa poitrine éclatait.
« Voyons,
murmura-t-il,
il faut avant tout que je voie clair dans les histoires de ce bougre-là. Après, il sera toujours temps d'agir. »
Il se rendit au bureau de Burle. Du trottoir d'en face, il aperçut une jupe qui disparaissait dans l'entrebâillement de la porte. Croyant tenir le poteau rose, il se glissa derrière elle et écouta. C'était Mélanie. Il la reconnut à sa voix flûtée de grosse femme. Elle se plaignait de ces messieurs du divan. Elle parlait d'un billet qu'elle ne savait pas comment payer, que les huissiers étaient chez elle, tout allait être vendu. Puis, comme le capitaine répondait à peine, disant qu'il n'avait pas un sou, elle finit par éclater en larmes. Elle le tutoya, l'appela le chéri à sa mère. Mais elle eut beau employer les grands moyens, ses séductions ne durent avoir aucun effet. Car la voix sourde de Burle répétait toujours
« Pas possible, pas possible !»
Au bout d'une heure, quand Mélanie se retira, elle était furieuse. Le major, étonné de la façon dont tournaient les choses, attendit un instant pour entrer dans la pièce où le capitaine était resté seul. Il le trouva très calme, et malgré une furieuse envie de le traiter de triple cochon, il ne lui dit rien, résolu à savoir la vérité d'abord. Le bureau ne sentait pas la coquinerie. Devant la table de bois noir, il y avait, sur le fauteuil cané du capitaine, un honnête rond de cuir. Et, dans un coin, la caisse était solidement fermée, sans une fente. L'été venait. Un champ de serin entrait par une fenêtre. C'était très en ordre. Les cartons exhalaient une odeur de vieux papier, qui inspirait la confiance.
« N'est-ce pas cette carcasse de Mélanie qui sortait quand j'entrais ?»
demanda la guitte. Burle haussa les épaules en murmurant.
« Oui, elle est encore venue me tanner pour que je lui donne 200 francs. Pas 10 francs, pas 10 sous. Tiens !»
reprit l'autre, voulant le sonder.
« On m'avait dit que tu la revoyais. »«
Moi ? Oh non, par exemple. J'en ai assez de tous ces chameaux-là. »
La guitte se retira, très perplexe. À quoi avait bien pu passer les 545 francs ? Est-ce que le brigand, après les femmes, aurait tâté du vin et du jeu ? Il se promit de surprendre Burle chez lui le soir même. Peut-être en le faisant causer et en questionnant sa mère, arriverait-il à connaître la vérité ? Mais, l'après-midi, il souffrit cruellement de sa jambe. Depuis quelque temps, ça n'allait plus du tout. Il avait dû se résigner à se servir d'une canne pour ne pas boiter trop violemment. Cette canne le désespérait. Comme il le disait avec une rage désolée, maintenant, il était dans les Invalides. Pourtant, le soir, par un effort de volonté, il se leva de son fauteuil. Et, s'abandonna sur sa canne dans la nuit noire, il se traîna rue des Récollets. Neuf heures sonnaient quand il y arriva. En bas, la porte de la rue était entr'ouverte. Il soufflait sur le palier du troisième étage lorsqu'un bruit de voix à l'étage supérieur le surprit. Il avait cru reconnaître la voix de Burle. Par curiosité, il monta. Au fond d'un couloir, à gauche, une porte laissait passer une raie de lumière. Mais, au craquement de ses bottes, la porte se referma, et il se trouva dans une obscurité profonde.
« Oh, c'est idiot !»
pensa-t-il.
« Quelque cuisinière qui se couche ?»
Pourtant, il vint le plus doucement possible coller son oreille contre la porte. Deux voix causaient. Il resta béant. C'était ce cochon de Burle et ce monstre de rose.
« Tu m'avais promis 3 francs !»
disait rudement la petite bonne.
« Donne-moi 3 francs !»«
Ma chérie, je te les apporterai demain !» reprenait le capitaine d'une voix suppliante. « Aujourd'hui, je n'ai pas pu. Tu sais que je tiens toujours mes promesses. »«
Non, donne-moi 3 francs ou tu vas redescendre !»
Elle devait être déshabillée déjà, assise sur le bord de son lit de sangle, car le lit craquait à chacun de ses mouvements. Le capitaine, debout, piétinait. Il s'approcha.
Oh, « Sois gentille, fais-moi de la place. »«
Veux-tu me laisser ?»
cria Rose de sa voix mauvaise.
« J'appelle, je dis tout à la vieille en bas. Quand tu m'auras donné 3 francs. »
Et elle ne sortait pas de ses 3 francs, comme une bête têtue qui refuse de passer. Burle se fâcha, pleura, Puis, pour l'attendrir, il sortit de sa poche un pot de confiture qu'il avait pris dans l'armoire de sa mère. Rose l'accepta, se mit tout de suite à le vider, sans pain, avec le manche d'une fourchette qui traînait sur sa commode. C'était très bon. Mais quand le capitaine crut l'avoir conquise, elle le repoussa du même geste obstiné.
« Je m'en fiche de ta confiture. C'est les 3 francs qu'il me faut. »
À cette dernière exigence, le capitaine leva sa canne pour fendre la porte en deux. Il suffoquait, nom de Dieu, la sacrée garce! Et dire qu'un capitaine de l'armée française acceptait ça! Il oubliait la saleté de Burle. Il aurait étranglé cette horreur de femme à cause de ses manières. Est-ce qu'on marchandait quand on avait une gueule comme la sienne? C'est elle qui aurait dû payer! Mais il se retint pour entendre la suite.
« Tu me fais beaucoup de peine, »
répétait le capitaine. « Moi qui me suis montré si bon pour toi. Je t'ai donné une robe, puis des boucles d'oreilles, puis une petite montre. Tu ne te sers même pas de mes cadeaux. »«
Tiens, pour les abîmer, c'est papa qui me garde mes affaires. »
« Et tout l'argent que tu m'as tiré ?»«
Papa me le place. »
Il y eut un silence. Rose réfléchissait.
« Écoute, si tu jures que tu m'apporteras 6 francs, « demain soir, je veux bien. Mets-toi à genoux et jure que tu m'apporteras 6 francs. Non, 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 à genoux. »
Le major Laguitte, frémissant, s'éloigna de la porte et resta sur le palier, adossé au mur. Ses jambes s'en allaient et il brandissait sa canne comme un sabre dans la nuit noire de l'escalier. « Ah, nom de Dieu ! » Il comprenait pourquoi ce cochon de Burle ne quittait plus son chez-lui et se couchait à 9 heures. « Ah, une jolie conversion, je t'en fiche ! » Et avec un sale trognon que le dernier des troupiers n'aurait pas ramassé sur un tas d'ordures.
« Mais sacré nom ! »
dit le major tout haut.
« Pourquoi n'a-t-il pas gardé Mélanie ?»
Que faire, maintenant ? Entrer ? Et leur flanquer à tous les deux une volée de coups de canne? C'était son idée d'abord. Puis, il avait eu pitié de la pauvre vieille, en bas. Le mieux était de les laisser à leur ordure. On ne tirerait plus rien de propre du capitaine. Quand un homme en tombait là, on pouvait lui jeter une pelletée de terre sur la tête, pour en finir comme avec une bête pourrie, empoisonnant le monde. Et on l'aurait beau lui mettre le nez dans son caca, il recommencerait le lendemain. Il finirait par prendre des sous afin de payer ses sucres d'orge aux petites mendiantes pouilleuses.
Nom de Dieu, l'argent de l'armée française et l'honneur du drapeau. Et le nom de Burle, ce nom respecté qui allait finir dans la crotte. Nom de Dieu, de nom de Dieu, ça ne pouvait pas se terminer comme ça.
Un instant, le major s'attendrit. Si encore il avait eu les 545 francs, mais pas un liard. La veille, à la pension, après s'être grisé de cognac comme un sous-lieutenant, il avait pris une culotte abominable. C'était bien fait s'il traînait la jambe. Il aurait mérité d'en crever. Alors, il laissa les 2 vaches faire dodo. Il descendit et sonna chez Madame Burle. Au bout de 5 grandes minutes, ce fut la vieille dame qui vint ouvrir elle-même. « Je vous demande pardon, » dit-elle. Je croyais que cette marmotte de Rose était encore là. Il faut que j'aille la secouer dans son lit. Le major la retint.
« Et Burle ? »
demanda-t-il. « Oh, lui, ronfle depuis 9 heures. Voulez-vous frapper à la porte de sa chambre ?»«
Non, non. Je désire seulement vous dire un petit bonsoir. »
Dans la salle à manger, Charles, devant la table, à sa place ordinaire, venait d'achever sa version. Mais il avait l'air terrifié, et ses pauvres mains blanches tremblaient. Sa grand-mère, avant de l'envoyer se coucher, lui lisait des récits de bataille, pour développer en lui l'héroïsme de la famille. Ce soir-là, l'histoire du Vengeur, ce vaisseau chargé de mourants qui s'engloutit dans la vaste mer, laissait l'enfant sous le coup d'une crise nerveuse, la tête emplie d'un horrible cauchemar. Madame Burle demanda au major la permission d'achever sa lecture. Puis, elle ferma le livre solennellement quand le dernier matelot eut crié « Vive la République !» Charles était blanc comme un linge. « Tu as entendu ?» dit la vieille dame. « Le devoir de tout soldat français est de mourir pour la patrie. »« Oui, grand-mère. » Il l'embrassa sur le front et s'en alla, grelottant de peur, se coucher dans sa grande chambre, où le moindre craquement des boiseries lui donnait des sueurs froides. Le major avait écouté d'un air grave.
« Oui, nom de Dieu, l'honneur était l'honneur, et jamais il ne laisserait ce gredin de Burle déshonorer la pauvre vieille et ce moutard. »
Puisque le gamin avait tant de goût pour l'état militaire, il fallait qu'il pût entrer à Saint-Cyr, la tête haute. Pourtant, le major reculait devant une sacrée idée qui lui entrait dans la tête depuis l'histoire des 6 francs, là-haut, lorsque Madame Burle prit la lampe et l'accompagna. Comme elle passait devant la chambre du capitaine, elle fut surprise de voir la clé sur la porte, ce qui n'arrivait jamais. « Entrez donc, » dit-elle. « C'est mauvais pour lui de t'endormir, ça le rend lourd. » Et avant qu'il pût l'en empêcher, elle ouvrit la porte et demeura glacée en trouvant la chambre vide. La guitte était devenue très rouge, et il avait l'air si bête qu'elle comprit tout d'un coup, éclairée par le souvenir de 1000 petits faits.
« Vous le saviez !» bégaya-t-elle. Pourquoi ne pas m'en avertir, mon Dieu, chez moi, à côté de son fils, avec cette laveuse de vaisselle, avec ce monstre? Et il a encore volé, je le sens.
Elle restait toute droite, blanche et raidie. Puis elle ajouta d'une voix dure.
Tenez, je voudrais le voir mort.
La guitte lui prit les deux mains, qu'il tint un moment serrées fortement dans les siennes. Ensuite, il fila, car il avait un nœud en travers de la gorge. Il aurait pleuré.
« Ah, nom de Dieu, de nom de Dieu ! Cette fois, par exemple, il était décidé. »